Jean-Jacques Lopez, pour cette deuxième partie de ce Radio Barque, 16e de la 7e saison. Donc, on va évoquer votre fonction de président de la communauté de communes. Alors, Corbière, Salanque, Méditerranée, je retiens bien la leçon, et qui a fait parler d'elle de plusieurs façons. Alors, d'abord, à sa naissance, parce que c'est une communauté de communes qui est à cheval sur deux départements, ce qui est relativement rare. Et déjà, dès sa naissance, elle avait été relativement contestée. Alors, elle, pour essayer d'expliquer aux gens qui ne la visualisent pas, elle comprend des communes toutes proches de la couronne perpignanaise Pia et Cléra, et Salses-Château. Et puis un certain nombre de communes du sud Corbière, dans l'Aude, Duyac, Peyre-Pertuse, enfin un certain nombre de communes à ce niveau-là. Et donc, cette naissance avait été contestée dès le départ. Rappelez-nous succinctement ça, Jean-Jacques Lopez.
Oui, donc c'était...
Vous étiez déjà maire de Salses. Hein,
J'étais maire de Salses en 2008. On était à la communauté de communes du Rivesaltais. Je suis rentré en 2011 dans la communauté de communes de Salanque Méditerranée. Et vous savez que la loi disait qu'il fallait un regroupement d'intercommunalités si on ne dépassait pas 15 000... Au départ... Le président de la République, François Hollande, pour ne pas le citer, avait dit 20 000. Et nous, on était 16 000 à quatre communes, donc les trois communes catalanes de Pia, Cléra et Salses, et la commune de Fitou.
Oui, qui elle déjà était du côté
qui était venue à l'époque de l'ancien maire qui avait voulu se raccrocher avec nous. Et donc on était 16 000. Et donc à partir de là, il n'y avait pas d'autre solution que de se fondre soit dans la communauté urbaine de Perpignan, soit dans l'agglo narbonnais.
Et justement du côté perpignanais, vous n'en vouliez pas.
Alors voilà, c'était un peu historiquement les deux communes de Pia et de Cléra. Aujourd'hui, on ne veut pas rentrer dans l'agglo. Ce qui est quand même assez bizarre parce que, ne serait-ce, bon, mais c'est un peu anecdotique, hein, on a une rue à Pia qui commence, la rue de l'Étang Long, qui commence à Pia et qui finit à Perpignan. Bon, donc, vous voyez, quand maintenant on est en communauté commune avec Fonjoncouze, où il me faut une heure et demie pour y aller, ou de l'autre côté, Soulage, aussi, où il faut une heure et quart, une heure et demie, bon, ben voilà, c'est comme ça, ça a été fait comme ça. Mais bon, l'idée, ça a été que les Catalans, entre guillemets, et Fitou ne souhaitaient pas rentrer dans la communauté urbaine, enfin, du moins dans l'agglo de Perpignan, et les autres communes, dont les communes audoises, qui étaient constituées du canton de Tuchan, du canton de Durban, et une paire, deux ou trois communes de Feuillat et de Fraisse, qui étaient dans l'agglo, mais eux, ils auraient dû éclater en partie dans l'agglo de Narbonne et en partie dans le Lézignanais. Et ils souhaitaient rester ensemble. Donc l'idée, ça a été de faire une seule communauté de communes avec le canton de Tuchan, le canton de Durban, ces communes de l'agglo narbonnaise et les trois communes catalanes. Alors ça n'a pas été simple parce que vous figurez géographiquement comment est le contour de ce territoire.
C'est une drôle de configuration.
C'est vrai, comment est le contour de ce territoire. En plus, bon, on part d'une commune de Pia qui est maintenant aux portes de 10 000 habitants, 9 900 habitants, à des communes comme Maisons ou Montgaillard qui sont à 35, 40 habitants. Voilà, bon, on nous a dit à l'époque, on disait, mais c'est complémentaire. Bon, je veux bien que ce soit complémentaire, mais il faut trouver vraiment l'aspect complémentaire de ces territoires.
Oui, alors ça c'était pour la naissance, mais enfin, c'est quand même né, vous êtes né le 1er janvier, je crois, 2017.
Oui, 1er janvier 2017.
Mais après, bon, il y a eu quelques autres épisodes, bon, on peut s'en douter, vu la difficulté de ce que vous venez de décrire, Jean-Jacques Lopez, mais alors il y a surtout à un moment... un épisode qui, lui, marque davantage dans la mesure, alors un épisode judiciaire, on va dire, qui finit bien pour vous, puisque vous avez en quelque sorte créé une sorte de jurisprudence à propos de l'attribution de l'eau. Alors essayez de nous faire un petit historique là-dessus, Jean-Jacques Lopez.
Mais la problématique, je viens de vous dire là que le territoire n'était pas bon, il était ce qu'il était, là, d'être complémentaire et tout. Moi, je pense que la première chose qu'il aurait fallu faire et mettre sur la table, c'était bon savoir comment il était complémentaire, donc travailler sur un schéma de mutualisation, travailler sur un pacte de gouvernance, travailler sur un projet de territoire. Je crois que c'est ce... Bon, on a un Scott qui a commencé, mais bon, il n'a fait que commencer. Et ça fait quand même maintenant 4 ans qu'on est ensemble. Voilà, donc je crois que c'est le départ. C'est une marche qui a été loupée d'entrée. Et on en a la preuve, c'est pour l'eau et l'assainissement. Hein. Moi, j'ai appris personnellement, et comme quelques-uns des maires, je pense au maire de Duyac, on a appris par la presse au mois d'août 2018 que il y allait la compétence d'eau et d'assainissement allait être transférée à la communauté de communes suite à une réunion avec les deux départements, enfin les services eau et assainissement des deux départements. Voilà, on a appris ça par la presse, par la presse locale. C'est quand même assez...
Une sorte de décision presque technocratique.
C'est une décision technocratique. Bon, à partir de là, bon, le pourquoi, le comment, eh bien, on ne le sait pas. Enfin, on s'en doute. Parce que, bon, vous savez qu'il peut y avoir l'harmonisation des prix du mètre cube, il peut y avoir pas mal de choses. On connaît globalement l'état de santé financier des communes. Bon, voilà. Donc, on se doute un peu du pourquoi et du pourquoi de ce transfert, et ce transfert rapide.
Sauf que ce transfert, évidemment, vous n'étiez pas encore président, mais vous étiez déjà maire de Sals. Vous, avec d'autres maires, vous le contestez, vous n'en voulez pas pour tout un tas de raisons. Alors même si, je fais une petite parenthèse quand même, même si c'est une compétence obligatoire prévue pour, je crois, dans 5 ans.
Voilà, la compétence est obligatoire était au 1er janvier 2020. Si ce n'est qu'il y avait une possibilité, si on ne la voulait pas, de la repousser au 1er janvier 2026. Ça, c'est la loi. Et c'est sur cette loi, d'ailleurs, qui était écrit que s'il y avait une minorité de blocage, c'est-à-dire une minorité de communes qui n'étaient pas d'accord pour transférer, eh ben, on pouvait transférer au 1er janvier 2026.
Voilà, donc, ce qui aurait dû se passer.
Ce qui aurait dû se passer, puisqu'on a été 7 communes sur 21 à délibérer pour dire qu'on n'était pas d'accord à transférer, donc on représentait, on était bien dans le cas de figure de la loi, on était bien 20% des communes qui 25% des communes qui représentaient 20% de la population. Donc à ce niveau-là, il fallait tout arrêter.
Vous étiez dans les clous. Donc on était comme ça ne marche pas, vous tentez un recours en tribunal.
Donc on a essayé d'avoir un recours gracieux. Bon, puis on a demandé d'être reçu par les préfectures et tout, en disant, bah, attendez, vous ne pouvez pas délivrer un arrêté de transfert. On a demandé au préfet, parce que c'est un arrêté de transfert, signé quand même par le préfet de l'Aude et le préfet des Pyrénées-Orientales. Conjoint. Voilà, donc, on leur a demandé, vous ne pouvez pas, puisque la loi dit qu'on a la minorité de blocage. Ben, les préfets ont passé outre, donc on a remué un peu, on a essayé de remuer ciel et terre, on a remué, on en a parlé dans les médias, on a demandé aux politiques, aux politiques, comme on peut dire, on n'a pas eu de retour favorable, si ce n'est, et il faut rendre à César ce qui appartient à César, de Madame Robert, qui est députée, je crois, dans l'Aude, oui. Qui a transmis nos doléances en haut lieu, mais bon, on n'a pas eu satisfaction. Donc, à partir de là, on a fait un recours au tribunal administratif, enfin, un double recours, recours en référé, parce que c'était au mois de décembre, et il fallait aller vite, puisque oui. C'était avant le 1er janvier 2020, et recours aussi au TA, un référé au TA, et un recours sur le fond au TA. Mais le tribunal administratif a analysé le référé et nous a donné tort. Et donc au 1er janvier 2020, la compétence est passée à la communauté de communes, la compétence au assainissement des 21 communes de notre communauté de communes est passée à la communauté de communes. On a continué.
Mais la procédure judiciaire suivait son cours.
Voilà, on a continué, on a continué. On est allé en Conseil d'État, en référé au Conseil d'État. Et le référé du Conseil d'État, le 9 juillet 2020, a suspendu l'arrêté des préfets. Donc suspendu, ça voulait dire quoi ? Ça veut dire qu'on était renvoyé sur le fond au tribunal administratif. Entre-temps, j'ai pris la présidence.
Oui, voilà. C'est...
Entre-temps, j'ai pris la présidence. Donc, je répète, le 9 juillet, le Conseil d'État a statué en disant suspension. Moi, j'ai pris la présidence le 16 juillet. On a pris de suite après une délibération en disant, bon, au préfet, il faut abroger votre arrêté, aux deux préfets. Pourquoi abroger ? Parce que abroger, ça veut dire que depuis le 1er janvier 2020, à la date que de l'abrogation, ben ça aurait été de la gestion de l'intercommunalité. Après, ça revenait aux communes. Bon, j'ai été reçu par les deux préfets. Et leur service, ils n'ont pas voulu abroger. Et donc, on a laissé, ils ont préféré que la loi se prononce au niveau du tribunal administratif. Le tribunal administratif, sur le fond, s'est prononcé le 8 décembre 2020 et n'a pas abrogé, a annulé, carrément. Donc, ça veut dire que l'arrêté de deux préfets n'a jamais existé.
Il est nul, il n'en a plus.
Il n'a jamais existé. Et c'est là toute la difficulté. C'est que maintenant... Il faut, il y a des choses qui ont été payées, il y a des travaux, du personnel et tout qui ont été payés par la communauté de communes, et il faut le renvoyer sur les communes. Il faut que les communes, puisque l'arrêté n'a pas existé, que la commune rembourse
voilà,
la communauté de communes.
Tâche qui vous incombe aujourd'hui.
Tâche qui m'incombe aujourd'hui. Oui, mais bon, je le fais très volontiers. Oui, je le fais très volontiers parce que j'étais contre ce transfert.
Oui, vous assumez votre cohérence et votre volonté à ce niveau-là.
Tout à fait.
Voilà. Alors finalement, vous avez créé une jurisprudence parce que quand même, c'est dans l'histoire de l'intercommunalité, ça, c'est une borne, j'imagine quand même. Ça peut resservir à d'autres.
Tout à fait. C'est une jurisprudence sur les compétences obligatoires quand il y a une possibilité. On le trouve sur le PLU, PLUI. On peut prendre avec une minorité de blocage.
Genre
on peut ne pas faire
un PLU.
Voilà. Donc sur l'urbanisme, sur l'eau, il y a plusieurs choses. Et ça fait jurisprudence.
Voilà. Et c'est une jurisprudence. Donc comme disait celui qui est devenu sénateur aujourd'hui, Sébastien Plat, qui était maire de Duyac, la jurisprudence de Duyac, Salse Duyac, dont il est fier et dont vous êtes fier aussi, j'imagine.
Oui, on est fier, pas du résultat. Bon, parce que le résultat, bon, c'était le bon sens. Je pense que les préfets auraient dû dire oui, c'est vrai, c'est les textes.
Voilà. Non, enfin, c'est comme ça que ça s'est passé.
Voilà. Donc, bon, ils ont voulu tenir toujours cette position. Et bien, la justice leur a dit les Duyac, les Salsing, etc., ont raison, vous devez retirer votre arrêté est annulé.
Et nul. Et c'est là-dessus qu'on marque une deuxième pause. Merci de cette historique, Jean-Jacques Lopez. On vous retrouve pour une troisième partie.